Le journal est présenté par Thomas Schoner.
Bonjour à tous. Les déboires de Nicolas Maduro, le président du Venezuela, a décrété l'état d'exception après l'état d'urgence économique. Maduro parle de menaces extérieures, les explications de notre correspondante dès le début de ce journal. L'Iran accuse l'Arabie Saoudite de sabotage. Selon Téhéran, la sécurité autour du grand pèlerinage à la Mecque n'est pas suffisante. Avant une réunion cruciale à Paris à la fin du mois, Jean-Marc Ayrault prépare le terrain. Le ministre des Affaires étrangères est au Proche-Orient aujourd'hui pour tenter de relancer le processus de paix, avec dans son sillage des membres du MEDEF également aujourd'hui. Et puis à la fin de ce journal, direction Saint-Nazaire, c'est le jour J pour l'Harmony of the Seas, le plus grand paquebot du monde qui prend la mer aujourd'hui. Plus de 40 000 personnes sont attendues sur le front de mer pour l'occasion. Qui en veut à Nicolas Maduro? Dans la nuit de vendredi à samedi, le président du Venezuela a décrété l'état d'exception. La cause invoquée, des menaces extérieures selon lui. Il y a également des oppositions intérieures, l'opposition de droite qui exige la tenue d'un référendum pour le révoquer. À cet état d'exception s'ajoute un état d'urgence économique. Les pros et anti ont manifesté d'ailleurs hier à Caracas. Des difficultés de partout qui inquiètent donc Nicolas Maduro, Angèle Savino.
Après la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, ils viendront me chercher. Ce n'est pas le pasteur Martin Niemöller qui parle, mais un avertissement de Nicolas Maduro. Le président vénézuélien a prolongé l'état d'urgence économique en accusant l'opposition et les États-Unis de vouloir déstabiliser le pays pour le renverser. Le décret d'état d'urgence durera 3 mois et sera reconduit toute l'année 2016 et même 2017. Le président vénézuélien pourra alors disposer des biens du secteur privé pour garantir l'approvisionnement des produits de base. Les chavistes ont manifesté ce samedi pour soutenir cette mesure et la mise en place du 5e moteur de l'économie communale. L'objectif, construire un nouveau modèle productif pour ne plus dépendre de la rente pétrolière. De son côté, l'opposition a organisé une manifestation pour dénoncer le décret. Selon l'ancien candidat à la présidentielle Enrique Capriles, c'est un coup d'État à la Constitution. Les deux manifestations annoncent le début d'un bras de fer. L'opposition espère organiser d'ici la fin de l'année un référendum révocatoire contre le président Nicolas Maduro. Quand les premières signatures récoltées seront vérifiées, le Conseil national électoral appellera 200 000 signataires à valider leur choix en personne. Puis, les anti-chavistes devront obtenir 4 millions de signatures pour avoir le droit d'organiser le référendum. Mais si celui-ci survient après le 10 janvier, c'est le vice-président qui terminera le mandat de Nicolas Maduro.
Les explications d'Angèle Savino à Caracas pour France Culture. En Colombie, le chef suprême des FARC invite l'ex-président Alvaro Uribe à discuter de l'avenir du pays. Les fiertés et les haines ne mènent nulle part, a-t-il écrit dans une lettre. Uribe, qui reste un farouche opposant pour parler de paix entamée avec la guérilla marxiste, c'était il y a 4 ans, en 2012. Au Mexique, un journaliste a été tué par balle dans l'état de Veracruz, dans l'est du pays, ce qui porte à 6 le nombre de reporters tués au Mexique depuis le début de l'année. Le grand pèlerinage de la Mecque au cœur des tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Téhéran accuse Riyad de ne pas avoir répondu à ses demandes de sécurité, ce qui empêcherait, selon Téhéran, des milliers de musulmans iraniens de se rendre sur le lieu saint en septembre prochain. Téhéran qui parle même carrément de sabotage, Clarence Rodriguez.
Il faut se rappeler qu'en septembre dernier, une bousculade meurtrière a coûté la vie à des milliers de pèlerins, dont 464 Iraniens. À ce moment-là, les autorités iraniennes avaient dénoncé l'incompétence de Riyad. 8 mois après cette tragédie, le ministre iranien de la Culture estime que les conditions ne sont pas réunies et qu'il est désormais trop tard pour le Hajj cette année. L'Arabie Saoudite a en effet demandé que les Iraniens se rendent dans un autre pays pour faire la demande de visa et refuse que les vols des compagnies iraniennes emmènent les pèlerins à la Mecque. De son côté, le ministre saoudien du Hajj et de la Omrah se défend en précisant, je le cite, « Lors de nos différends pourparlers en avril dernier, la délégation iranienne a refusé de signer l'accord pour le pèlerinage de cette année en exigeant que les visas soient remis en Iran. » Quoi qu'il en soit, l'Arabie Saoudite ne peut absolument pas interdire le Hajj à 80 millions de musulmans, quand bien même, le pèlerinage a toujours été un facteur de tension entre Riyad et Téhéran depuis la révolution islamique.
Les explications à Riyad de Clarence Rodriguez. François Hollande a souligné hier que Boko Haram restait une menace malgré les bons résultats obtenus sur le terrain dans la lutte contre la secte islamiste. Le président de la République participait à un sommet au Nigeria. La situation humanitaire autour du lac Tchad a été évoquée. Boko Haram y reste très bien implanté. L'objectif aujourd'hui, selon François Hollande, c'est de déconstruire les réseaux d'armement qui approvisionnent justement les terroristes de Boko Haram. Jean-Marc Ayrault, lui, est au Proche-Orient. Aujourd'hui, il doit rencontrer le Premier ministre israélien à Jérusalem et le président palestinien à Ramallah. Et pendant que le ministre des Affaires étrangères va discuter processus de paix, d'autres vont parler contrat. Pierre Gattaz, lui aussi, est sur place. Avec plusieurs dirigeants d'entreprise, ils doivent se rendre à Tel Aviv, à Haïfa ou encore à Jérusalem. Objectif, accélérer les relations économiques et des deux côtés de la Méditerranée, Jean-Marc Chardon.
Pour Israël, la France est le troisième fournisseur européen, mais après l'Allemagne et l'Italie. Des échanges qui restent pourtant relativement modestes et des investissements jugés insuffisants. Emmanuel Macron, en lançant à l'automne la French Tech en Israël, a voulu accélérer ses investissements. Parmi les cibles, le développement des infrastructures, la couverture énergétique, la chimie, la plasturgie, l'innovation technologique surtout. On estime qu'Israël réalise déjà 40% de son PIB grâce aux technologies de pointe. C'est la recherche-développement qui est prisée dans l'approche économique, laquelle fait appel à des start-up et nécessite beaucoup de capitaux, ainsi que le souligne Arnaud Renoir, professeur des universités à Paris-Dauphine.
Israël est le pays qui a le plus de sociétés cotées au Nasdaq en dehors des États-Unis. C'est considéré comme étant le lieu de la haute technologie aujourd'hui, en plus de Silicon Valley, etc. Donc, si on a ça à l'esprit, on voit bien la spécificité d'Israël et probablement, très très certainement, la raison pour laquelle la France a de nombreuses opportunités, puisque si on compare la situation de la France se positionne aussi sur ce lien entre la recherche et son transfert, la valorisation de cette recherche.
Et en retour, les entrepreneurs français espèrent aussi que des investisseurs israéliens se rapprocheront d'entreprises tricolores.
Les explications de Jean-Marc Chardon pour France Culture. Bernard Cazeneuve, lui, se rend à Rennes, en Ille-et-Vilaine, ce matin pour saluer, je cite, « les forces de l'ordre ». Rennes sous haute surveillance depuis les débordements de vendredi soir. Hier, 700 personnes se sont réunies malgré une interdiction de manifester prononcée par le préfet. Des manifestants qui n'ont pas pu accéder au centre-ville. 7 compagnies de CRS ont été déployées sur place pour cette manifestation. Autre lieu de violence lors de précédents rassemblements, à Nantes, un lycéen de 18 ans a été mis en examen pour tentative d'homicide sur un policier. Il avait été interpellé le 3 mai dernier en marge d'une manifestation contre la loi travail. Après les accusations de harcèlement qui vise le député écologiste Denis Baupin. 17 anciennes ministres lancent un appel aujourd'hui dans le journal du dimanche. Elles annoncent qu'elles dénonceront désormais et systématiquement toutes les remarques sexistes, les gestes déplacés ainsi que les comportements inappropriés. À Paris, un millier de personnes ont participé hier à une marche mondiale du cannabis. Ce rassemblement est organisé tous les ans, c'était la 15e édition hier. Un des organisateurs explique que le message, ce n'est pas d'inciter les gens à consommer, mais de réclamer la dépénalisation de l'usage de cette drogue. C'est le plus grand paquebot du monde. L'Harmony of the Seas va quitter Saint-Nazaire en Loire-Atlantique ce midi. L'Harmony of the Seas, c'est 362 mètres de long, 60 mètres de large. Ça fait près de 3 ans maintenant qu'il fait partie du décor à Saint-Nazaire. Il a été construit au chantier STX. Le bateau a été livré jeudi à l'armateur américain RCCL. C'est donc le grand départ aujourd'hui et un pincement au cœur pour les salariés d'STX qui ont travaillé dessus, Anne Patinec.
Cette manœuvre de sortie du bassin de l'Harmony of the Seas, Laurent Herpin la prépare depuis 9 mois avec ses collègues pilotes de Loire. Ils se sont entraînés sur simulateur et ils l'ont déjà réalisé en grandeur réelle à 2 reprises lors des essais mers. Malgré tout, la pression monte au fil des heures.
Même si c'est la troisième fois qu'on va le ressortir, il faut rester très vigilant car il peut arriver encore une fois n'importe quel événement comme une avarie, machine ou autre. On va essayer de reprendre le même plan que précédemment. La différence aujourd'hui, c'est que l'équipage n'est plus l'équipage du chantier, mais l'équipage de chair CCL.
Un pilote s'installera à l'arrière du paquebot, prêt à signaler le moindre problème, car le bateau sera reculons. Avec un autre collègue, Laurent Herpin sera la passerelle aux côtés du commandant.
Je suis juste à côté de lui, je regarde si tout est cohérent par rapport au plan qu'on s'est fixé. Et à côté de ça, je gère les remorqueurs, qui seront là en assistance, pour aider au cas où le navire aurait une défaillance technique. Le commandant m'a demandé à ce que toutes les communications soient faites en anglais. Pour ce qui est des communications extérieures, donc avec les remorqueurs, avec les lameneurs, avec le port, donc je les ferai en français, mais je les traduirai à chaque fois pour que le commandant puisse comprendre et avoir un aperçu de tout ce qui se passe.
Les pilotes de Loire débarqueront du paquebot à une vingtaine de kilomètres de Saint-Nazaire. Comme pour tous les bateaux, qu'ils assistent quotidiennement.
Le reportage d'Anne Patinec à Saint-Nazaire et l'Harmony of the Seas devrait partir vers 13h ce midi, direction l'Angleterre où il va passer quelques jours. Il doit partir ensuite pour Barcelone où il sera baptisé en juin. Nous vous avons parlé hier soir de cette Ukrainienne, Jamala, qui a choisi de défier les Russes en chanson. Elle a finalement gagné la 61e édition de l'Eurovision à Stockholm en Suède. Sa chanson, intitulée 1944, s'inspire de l'exil des Tatars de Crimée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, exil voulu par Staline. La Russie est arrivée 3e, la France finit 6e. La météo de ce dimanche, c'est beaucoup mieux qu'hier. Toujours des nuages, mais quand même plus d'éclaircies. Cet après-midi, du soleil sur la moitié sud. Les averses vont être concentrées sur le nord, la Picardie, l'Île-de-France. Les Ardennes, ce sera là en fin d'après-midi. Les températures 20 degrés en moyenne sur la moitié sud, entre 13 et 14 degrés sur la moitié nord.